Véroa Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir, au Mozambique, les forces de sécurité affirment avoir tué une centaine d'islamistes, dont plusieurs opérations dans le nord du pays. En République démocratique du Congo, Vital Kamerhe, directeur de cabinet du président, sera le 11 mai devant un tribunal pour détournement présumé de plus de 50 millions de dollars. Avec près de 1500 morts, l'Afrique reste le continent le moins touché par la pandémie de coronavirus, qui a fait plus de 217 000 morts à travers le monde. Également, dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord, le journal. Au Mozambique, les forces de sécurité affirment qu'elles ont tué début avril plus d'une centaine de membres des groupes islamistes dans la province du Cabo Delgado, dans le nord du pays. Nathalie Barge.
Au moins 128 djihadistes ont été tués lors de trois opérations menées du 7 au 12 avril dans le district de Mouidoumbé et les îles de Kirimba et Ibo, a indiqué le ministre de l'Intérieur Ahmad Mikwidade. Désignés sous le nom d'Al-Shabaab, ces djihadistes opèrent dans la province du Cabo Delgado depuis octobre 2017. Certaines attaques récentes ont été revendiquées par le groupe État islamique. La situation au Cabo Delgado est actuellement sous contrôle, a assuré M. Mikwidade, ajoutant que les forces de défense et de sécurité se préparent à d'autres opérations. Le 7 avril, les djihadistes ont tué 52 personnes dans le village de Xitaxi, dans le district de Mouidoumbé, selon la police, qui affirme que ce massacre s'est produit parce que les jeunes villageois ont refusé de rejoindre les rangs des islamistes.
En République démocratique du Congo, Vital Kamerhe, le directeur de cabinet et principal allié du président, fera face à la justice le 11 mai dans une affaire de détournement présumé de près de 51 millions de dollars. Nous faisons le point avec Abdourahmane Dia.
En détention préventive depuis le 8 avril, Vital Kamerhe est convoqué avec un entrepreneur libanais installé en RDC depuis des décennies. L'ex-président de l'Assemblée nationale et l'entrepreneur libanais sont accusés d'avoir détourné 48,8 millions de dollars entre mars 2019 et janvier 2020. Cette somme devait financer la construction de 1500 maisons préfabriquées dans le cadre du projet de logements sociaux lancé par le président Félix Tshisekedi peu après son investiture en janvier 2019. Monsieur Kamerhe et Sami Djamal, 78 ans, sont également poursuivis pour le détournement de plus de 2 millions de dollars dans le cadre d'un autre programme de construction au bénéfice de policiers et militaires à Kinshasa. M. Kamerhe est également poursuivi pour détournement de fonds publics avec un fonctionnaire congolais. Vital Kamerhe nie ces accusations. Il estime que tous les marchés publics ont été hérités du précédent gouvernement, affirmant qu'aucun contrat de marché public de gré à gré ne porte sa signature. Il n'a pas démissionné de son poste de directeur de cabinet du président. Ses avocats affirment que sa santé s'est détériorée en prison.
Toujours en RDC, le trafic va reprendre jeudi sur le lac Kivu entre Goma et Bukavu, dont les deux provinces n'enregistrent plus aucun cas de Covid-19. Le gouverneur du Nord Kivu a précisé que le port du masque, la distanciation sociale sur le bateau et la prise de température à l'embarquement comme au débarquement sont obligatoires pour tous les passagers. Le nombre de décès liés au Covid-19 en Afrique s'élevait mardi à près de 1500 morts et le nombre de cas confirmés dépasse plus de 32 000. Le point avec Eric Manirakiza.
Le Tchad a annoncé mardi ses deux premiers décès dus au coronavirus. Au Kenya, les entrées et sorties de deux grands camps de réfugiés, celui de Dadaab et celui de Kakuma, qui abrite près de 400 000 personnes, sont interdites à compter de ce mercredi pour éviter la propagation du virus. Les organisations humanitaires affirment qu'une épidémie dans ces camps surpeuplés serait désastreuse. Le Kenya n'a pas imposé de confinement total, mais a instauré un couvre-feu. En Sierra Leone, un gardien d'une prison de la capitale Freetown a été tué lors d'une émeute de détenus qui ont déclenché un incendie. La mutinerie s'est produite après l'annonce lundi par le ministère de la Justice qu'un prisonnier avait été testé la veille positif. Le ministère de la Justice a suspendu pour un mois les activités des tribunaux afin d'éviter les contaminations lors des transferts de prisonniers. La justice du Malawi a enterré mardi pour de longs mois le confinement ordonné par le président Peter Mutharika pour tenter de freiner la propagation de la pandémie dans le pays.
En Guinée-Bissau, le premier ministre Nuno Gomes Nambian a annoncé avoir été contaminé par le coronavirus et, selon le ministre de la Santé, trois autres membres du gouvernement le sont également. Le premier ministre a déclaré se sentir bien sur sa page Facebook. Le virus existe et se propage facilement. Restez à la maison et prenez toutes les mesures pour sauver votre vie et celle de votre famille, a-t-il ajouté. Une bonne partie des membres de la commission interministérielle de lutte contre le coronavirus ont été contaminés, a poursuivi M. Nabiam, soulignant que cela fait partie des risques encourus pour avoir été à l'avant-garde de la lutte contre la maladie. La Côte d'Ivoire a retiré sa déclaration de compétence de la Cour africaine des droits de l'homme, dénonçant des agissements intolérables de cette juridiction. Ce retrait de déclaration de compétence fait qu'il ne sera plus possible aux ONG et aux personnes privées de saisir directement la Cour, à laquelle la Côte d'Ivoire continue d'adhérer. En Afrique du Sud, l'ex-président Jacob Zuma a annoncé qu'il renonçait à contester les poursuites lancées contre lui dans une vieille affaire de corruption et confirmé qu'il se présenterait à la justice pour la prochaine audience de son procès le 6 mai. La Turquie a affirmé aujourd'hui qu'elle allait défendre le gouvernement de Tripoli face aux forces du maréchal Khalifa Haftar. L'homme fort de l'Est libyen s'est proclamé gouverneur de tout le pays lundi soir. Par ailleurs, le gouvernement d'Union nationale libyen a annoncé avoir protesté auprès de Paris au sujet du survol sans autorisation de territoires sous son contrôle d'un avion de combat français Rafale.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La pandémie du Covid-19 a fait plus de 217 000 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine. De nombreux pays ont entamé un déconfinement progressif pour redonner vie à des économies étranglées par la crise. Nani Talani.
L'Inde a franchi la barre des 1000 décès causés par le coronavirus. Même si ce chiffre est inférieur à ceux de l'Europe ou des États-Unis, les experts craignent un désastre sanitaire dans le deuxième pays le plus peuplé au monde avec un système de santé précaire. Les États-Unis sont les plus touchés avec plus de 58 000 morts et plus d'un million de cas confirmés. Ils sont suivis de l'Italie, l'Espagne, la France et le Royaume-Uni. En France, pour la première fois en 50 ans, les rencontres de la photographie d'Arles ont été annulées. La Pologne a annoncé la réouverture dès la semaine prochaine des crèches, hôtels ou centres commerciaux. En Ukraine, plusieurs centaines de petits entrepreneurs ont protesté à Kiev pour exiger un assouplissement du confinement. La Russie prolonge l'interdiction d'entrer sur son territoire pour les étrangers au-delà du 30 avril. La Chine, berceau de la pandémie, a annoncé l'ouverture le 22 mai de la session annuelle de son Parlement.
Toujours en Chine, la cité interdite de Pékin va rouvrir vendredi après 3 mois de fermeture due à la crise du coronavirus. C'est le dernier signe d'un retour à la normale en Chine. La pandémie provoquée par le nouveau coronavirus a mis fin à plus de 10 années de croissance aux États-Unis, mais la chute du PIB au premier trimestre n'est rien à côté du plongeon attendu pour les mois suivants, qui s'annonce historique. Le FMI table ainsi sur une contraction du PIB américain de 5,9% en 2020. Les États-Unis pourraient connaître avec cette crise une récession 3 fois plus forte que pendant la crise financière et la plus forte contraction économique depuis la Seconde Guerre mondiale. Le président iranien Hassan Rouhani a appelé aujourd'hui les États-Unis à cesser de comploter contre la République islamique dans un contexte d'escalade verbale. Les États-Unis ont indiqué le 15 avril que 11 bateaux iraniens avaient harcelé leur navire dans le golfe arabique, accusant l'Iran de manœuvres dangereuses en mer. Le président Donald Trump a affirmé avoir ordonné à l'US Navy de détruire toute embarcation iranienne qui harcèlerait nos navires en mer. Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a assuré garder espoir dans une dénucléarisation de la Corée du Nord. Quelles que soient les informations qui parviennent depuis la Corée du Nord au sujet de leurs dirigeants, notre mission reste la même, a déclaré Mike Pompeo. Les rumeurs sur l'état de santé de Kim Jong-un se sont multipliées depuis son absence remarquée aux célébrations de la naissance de son grand-père, fondateur du régime, le 15 avril. En Afghanistan, au moins 3 personnes sont mortes et 15 ont été blessées dans un attentat suicide survenu en banlieue de Kaboul. C'est la première attaque qui vise la capitale afghane depuis plus d'un mois. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco, présentée par Nanit Talani.
Le gouvernement sénégalais a commencé à distribuer l'aide alimentaire aux populations les plus vulnérables touchées par le Covid-19. Ce projet de 69 milliards de francs CFA concerne 1 million de ménages, soit environ 10 millions de personnes sur 16 millions d'habitants. Les bénéficiaires recevront un lot des produits de première nécessité d'une valeur de 66 000 francs CFA. Le gouvernement a aussi promis d'effacer certaines factures d'eau et d'électricité. Le Malawi va lancer à partir du mois de mai un programme de transfert de fonds d'urgence destiné à environ 1 million de personnes et de petites entreprises pour atténuer l'impact du coronavirus. Selon le président Peter Mutharika, les ménages éligibles recevront par téléphone portable un paiement mensuel d'environ 20 000 francs CFA, soit l'équivalent du salaire minimum mensuel au Malawi. Pour terminer, le Nigeria bénéficie d'une assistance du gouvernement américain de 21,4 millions de dollars pour contrer le Covid-19. Ces fonds soutiendront les activités essentielles des autorités nigérianes pour contrôler la propagation de la maladie, telles que des campagnes rapides d'information sur la santé, l'eau et l'assainissement, la prévention et le contrôle des infections.
Maintenant, la page sport avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. La Zambie a marqué le 27e anniversaire du crash aérien au Gabon qui a coûté la vie à toute son équipe nationale. 18 joueurs et 2 entraîneurs faisaient partie des 30 passagers d'un avion militaire affrété qui s'est écrasé dans l'océan Atlantique peu après le décollage au soir du 27 avril 1993 après une escale à Libreville. L'équipe se rendait à Dakar pour jouer contre le Sénégal lors des qualifications pour la Coupe du Monde en 1994. Le porte-parole de la Fédération Zambienne de Football par intérim, Sidney Mungala, a déclaré à CAFOnline.com que l'anniversaire sera restreint à cause du coronavirus. Les familles n'auront qu'un représentant lors de la brève cérémonie au Heroes Accra, lieu où sont enterrées les victimes. En Europe, le chemin est de plus en plus étroit pour une reprise du championnat d'Italie. Le ministre des Sports, Vincenzo Spadafora, suggère aux dirigeants du Calcio de penser en priorité à la prochaine saison. La Ligue italienne convoque pour vendredi une assemblée générale d'urgence où la question de l'éventuelle poursuite de la saison devrait être évoquée. En France, le premier ministre Édouard Philippe annonce que la saison 2019-2020 de sport professionnel ne pourrait pas reprendre. Le championnat de France de football devrait donc être arrêté. En athlétisme, le report à 2021 des Jeux Olympiques de Tokyo va représenter pour le Comité international olympique un surcroît de plusieurs centaines de millions de dollars. C'est ce qu'estime son président Thomas Bach, le CIO, qui dispose d'environ 1 milliard de dollars de réserves pour faire face à une éventuelle annulation des JO. A pris fin mars la décision d'un report des Jeux qui devait initialement s'ouvrir le 24 juillet 2020. Les JO de Tokyo doivent à présent se tenir du 23 juillet au 8 août 2021, mais si la pandémie de coronavirus n'est pas maîtrisée d'ici un an, les JO ne pourront pas être reportés une nouvelle fois et seront donc annulés. Met en garde le japonais Yoshiro Mori, patron du comité d'organisation. Basketball pour finir, les Lakers discutent avec la mairie de Los Angeles pour avoir la possibilité de rouvrir leur centre d'entraînement avant le 15 mai, date à laquelle la Californie décidera de stopper ou prolonger le confinement. La NBA compte autoriser d'ici le 8 mai au mieux les joueurs à se rendre dans les installations de leur équipe pour y effectuer des séances individuelles dans les zones où les restrictions gouvernementales contre le coronavirus le permettront. 3 autres franchises résident également en Californie, les Los Angeles Clippers, les Golden State Warriors et les Sacramento Kings.
Merci à Cuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. Le Bénin se retire du protocole qui permet à un citoyen de saisir directement la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Une décision qui fait suite à ce que le gouvernement béninois qualifie de dérapage et d'égarement qui éloigne cette Cour de ses véritables compétences et du rôle crucial qu'elle doit jouer. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et celui de la Justice sont montés au créneau pour apporter des éclaircissements sur les raisons de cette décision qui, selon certains, ne fait qu'isoler le pays sur la scène africaine et internationale. Les précisions de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adandé.
Tout a commencé lorsque la CADHP, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, a ordonné à l'État béninois de suspendre les élections communales du 17 mai prochain et ce, sous saisine de l'opposant béninois Sébastien Adjavan. Ce dernier se plaignait des préjudices irréparables en cas de l'organisation des dites élections en son absence. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Maître Alain Ouronla, a immédiatement réagi, fustigeant une décision dont l'application remet en cause la souveraineté de l'État béninois.
Pas dans les prérogatives de la Cour africaine des droits de l'homme d'enjoindre à un État d'interrompre son processus électoral qui est un acte de souveraineté. Non, le pouvoir de juger ne confère pas le pouvoir de dire tout et n'importe quoi à temps et à contre-temps.
Cette décision notifiée à l'État béninois a d'ailleurs suscité le retrait du protocole qui permet à un citoyen de saisir directement la CADHP. Selon le ministre de la Justice, ce n'est pas la première fois que cette Cour outrepasse ses prérogatives pour s'immiscer dans des affaires qui ne la concernent en rien. Séverin Kenom est le ministre béninois de la Justice.
C'est justement la réitération et la récurrence de ce dérapage qu'il n'est pas possible de sanctionner et que la Cour elle-même ne donne pas l'air de vouloir corriger en dépit des remous qu'elle suscite en son propre sein qui ont amené notre pays à initier son désengagement de la compétence individuelle au président en exercice de l'Union africaine, au président de la Commission de l'Union africaine.
Dans une publication sur sa page Facebook, Valentin Dienotin, l'ancien ministre de la Justice en asile depuis quelques mois, affirme que cette posture du régime du président Patrice Talon confirme aux yeux du monde que le Bénin n'est plus un État démocratique. Le Bénin ne peut vivre en autarcie. Cette décision de retirer aux Béninois la faculté de porter plainte contre l'État à la CADHP est un coup d'épée dans la mer, peut-on lire dans la publication. Pour l'ancien parlementaire, l'actuel locataire de la Marina n'est pas le propriétaire du Bénin pour prendre tout seul sur lui la responsabilité de retirer le pays de cet instrument sous-régional. Le consultant politique Agapit Maforekan n'est pas de cet avis. Pour lui, la Cour a montré ces dernières années ses limites.
On a l'impression que l'individu prime tellement sur l'État qu'on peut le fragiliser du point de vue de l'autorité, du point de vue de souveraineté. Il ne s'agit pas de ne pas donner suite aux droits de nos deux citoyens. Moi, je pense que les droits humains sont sacrés. Mais autant ils sont sacrés, autant l'autorité de l'État doit s'exercer et sa souveraineté doit s'exprimer.
Le Bénin demeure membre de la Cour, mais refuse de mettre à mal sa souveraineté au nom d'un individu. Les élections municipales et communales sont maintenues malgré l'injonction de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Pour le gouvernement, ce n'est qu'une question de légitimité et de souveraineté. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples est un organe judiciaire mis en place par l'Union africaine en vue d'assurer la protection des droits de l'homme en Afrique. Elle a pour mandat d'examiner les plaintes et de rendre des avis consultatifs. Elle peut aussi rendre des décisions contraignantes à l'égard des États jugés coupables de violations des droits humains. Mais la mise en application de ces arrêts est souvent ignorée par les pays visés. Pour en parler, Bagassikoura a joint à Dakar le spécialiste de l'Union africaine, Ibrahima Kane.
Une décision politique, c'est une décision qui a été prise hâtivement, à mon avis. La décision ne prend effet que dans un an. Et ensuite, rien n'interdit aux individus de pouvoir attraire le Bénin devant la Cour africaine en utilisant le canal de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, parce que cette possibilité aussi existe au niveau de la Commission africaine des droits de l'homme à laquelle le Bénin est parti par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Si c'est voulait vraiment éviter que le pays ne soit après devant les juridictions internationales pour des violations des droits de l'homme. Il y a la Cour de justice de la CEDEAO où les personnes peuvent aussi porter plainte contre le Bénin sans avoir à épuiser les voies de recours internes et faire condamner le pays. Donc vous voyez que cette décision-là, cet acte-là paraît plus épidermique que vraiment qu'une décision à conséquence.
Ouais. Alors la même cour a demandé à la Côte d'Ivoire de suspendre le mandat d'arrêt contre Guillaume Soro, une décision qui a été bien sûr carrément ignorée par Abidjan. Est-ce que le protocole dispose d'un mécanisme pour forcer les États à exécuter ces décisions?
Non, parce que ce qui avait été décidé devant la Cour de justice de la CEDEAO dans l'affaire Guillaume Soro, c'était la Cour avait ordonné des mesures conservatoires. Et ces mesures conservatoires consistaient à éviter que l'État de Côte d'Ivoire prenne des mesures pour éviter que la suite de la plainte puisse avoir des conséquences fâcheuses. Alors là, on l'a ignoré totalement, et en plus, on est allé jusqu'à condamner Guillaume Soro, je crois, à 20 ans. Il n'y a pas à proprement parler de mécanisme qui peut forcer la Côte d'Ivoire à mettre en œuvre les décisions de la Cour à l'heure actuelle. Les seules possibilités qui existent, c'est des possibilités politiques. C'est-à-dire la Cour ayant constaté que l'État n'a pas appliqué sa décision, en réfère le cas au Conseil exécutif de l'Union africaine, qui, puisque c'est un Conseil exécutif qui discute entre 55 États, prend une décision concernant cette affaire. Et jusqu'à ce jour, je dois vous avouer qu'il n'y a eu aucune décision du Conseil exécutif concernant la mise en œuvre des décisions de la Cour.
Ibrahim Makan, spécialiste de l'Union africaine, il était joint à Dakar.
Washington, la voix de l'Amérique.
En Ouganda, les agents de santé disent avoir un certain succès dans la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus. Le pays compte 79 cas confirmés, 49 guérisons et jusqu'à présent aucun décès. Mais hors des hôpitaux, ces travailleurs de la santé sont confrontés à toutes sortes de stigmatisations. Reportage de Halima Atoumani à Kampala, le récit est de Lionel Gaïma.
Le service d'urgence de l'hôpital national de Mulago à Kampala tournait à pleine capacité le dernier mois. L'hôpital affirme que les guérisons sont allées au même rythme que les infections confirmées au coronavirus. Le docteur Baterana Biarugaba, directeur de l'hôpital national de référence de Mulago.
Nous nous sommes dit, ok, voyons comment ce virus tue les gens si nous les maintenons sous leurs médicaments normaux. S'ils sont hypertendus, nous traitons l'hypertension, nous traitons le diabète, nous traitons les ulcères, nous traitons toutes les formes de maladies. Et je pense que cela fait partie de notre succès.
De l'avis du docteur Fred Nakwagala, médecin principal pour la prise en charge des cas de COVID-19 en Ouganda, les leçons tirées des épidémies d'Ebola et de choléra ont aidé le personnel à mieux se préparer. Cependant, il admet que le COVID-19 pose des nouveaux défis, y compris pour les travailleurs de la santé.
Vous vivez avec ce sentiment de peur, d'anxiété. Et aussi, pour vous, vous pouvez être fort. Mais il y a aussi votre famille, où vous habitez, votre communauté, où vous vivez et voyagez. Et il y a aussi la question de la stigmatisation. Si vous entrez dans un marché que les gens vous connaissent, ils ne veulent pas vous servir. Ils donnent comme l'impression de ne pas vouloir s'associer à vous.
Pour la ministre ougandaise de la Santé, Dr Jane Ruth Acheng, les seuls nouveaux cas confirmés de coronavirus ont été importés.
Près de 23 sont des camionneurs venus du Kenya ou de la Tanzanie. Dans le pays, nous n'avons pas eu de cas positifs. Et comme nous approchons de la fin du confinement, nous avons besoin d'avoir des informations vitales qui peuvent contribuer aux décisions de lever de l'isolement. Will form part
of the decisions for lifting the lockdown. Les restrictions sur les déplacements et les grands rassemblements doivent expirer ou être prolongées le 5 mai. Pour aider à prendre ces décisions, le ministère de la Santé mène une enquête rapide à l'échelle nationale sur la transmission communautaire, y compris 20 000 tests pour le COVID-19. pour voir si d'autres infections n'ont pas été détectées.
Abdourahman Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, la pandémie du Covid-19 et ses conséquences sur l'ordre économique et diplomatique mondial. La propagation du nouveau coronavirus a fait subir des pertes énormes aux économies des pays les plus riches et fragilisé davantage celles des pays en développement. Cette crise sanitaire va-t-elle impulser une nouvelle dynamique dans les relations internationales? Quel rôle l'Afrique peut-elle jouer dans un monde post-Covid-19? Nous allons évoquer tout cela avec nos invités ce jeudi 30 avril 2020 à 19h, temps universel, sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Certains États américains assouplissent les restrictions mises en place pour ralentir la propagation du coronavirus qui a fait plus de 55 000 morts et infecté près d'un million de personnes aux États-Unis. Les gouverneurs essayent d'équilibrer la menace de santé publique avec le coût économique. 26 millions d'Américains ont perdu leur emploi depuis la fermeture de nombreuses entreprises. Un reportage de Brian Padden de VOA, relaté par Nathalie Barge.
Les gymnases, salons de coiffure et restaurants font partie des entreprises qui ont rouvert leurs portes en Géorgie, le premier État à prendre des mesures pour relancer l'économie locale. Ces entreprises sont toutefois tenues de faire respecter la distance sociale, d'assainir leurs locaux et de dépister les symptômes du coronavirus. Shannon Stafford est propriétaire d'un salon de coiffure. Elle assure prendre les précautions nécessaires.
Nous vérifions les températures. Nous nous assurons que les clients remplissent un questionnaire avant d'effectuer tout type de service sur eux, en nous assurant que les mains sont lavées.
Alors que le taux d'infection en Géorgie continue d'augmenter, les experts en santé publique avertissent que tenter d'ouvrir trop tôt les commerces non essentiels risque d'entraîner une flambée plus grave du virus. Le docteur Jason Farley est épidémiologiste à l'université Johns Hopkins.
En ouvrant l'économie, nous exposons les personnes immunologiquement naïves, c'est-à-dire sans anticorps, sans antécédents au virus. Et nous risquons de perdre plus de vies et de voir une augmentation des hospitalisations.
Le président Donald Trump laisse les États décider sur la relance des activités économiques. Lundi, il a annoncé de nouvelles mesures pour aider les entreprises à rouvrir en toute sécurité et pour accroître la capacité de dépistage du virus.
Assurer la santé de notre économie est essentiel pour assurer la santé de notre nation. Ces objectifs fonctionnent en tandem, ils sont liés.
D'autres États permettent également à certaines entreprises de rouvrir leurs portes, mais il faut le faire en douceur, selon William Schaffner, expert en maladies infectieuses à l'hôpital universitaire Vanderbilt.
Nous devrons peut-être le faire progressivement pour voir si nous pouvons gérer la situation ou si nous obtenons soudainement une nouvelle augmentation des cas de COVID-19. Et ce sera un délicat exercice d'équilibre.
L'État de New York est en train d'élaborer un plan progressif pour ouvrir sur la base des recommandations des centres de prévention et de contrôle des maladies qui préconisent notamment une évaluation des risques, souligne le gouverneur Andrew Cuomo.
Nous allons laisser 2 semaines entre les phases afin de pouvoir surveiller l'effet de ce que nous venons de faire. Nous prenons les mesures nécessaires et ce sera sous contrôle.
Tandis que certaines entreprises commencent à rouvrir, d'autres ferme. Une vague d'infection du coronavirus dans l'industrie de l'emballage de la viande a forcé la fermeture d'usines, perturbant la chaîne d'approvisionnement, ce qui pourrait entraîner des pénuries et la flambée des prix.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Joël Morissin, Michel Joseph, Lionel Gaïma et Georges Léonard Sagnot. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24h sur 24, un seul site internet, voaafrique.com. Sans oublier nos pages Facebook, Twitter et Instagram, bien sûr.